Et salut les marques, salut les smarts, et bienvenue dans Catch Up, votre podcast qui transpire le catch et qui résume et analyse l'actualité du show rouge de la WWE. Eh ben oui, c'est Raw, et c'est Raw présenté par, je suis Giscal, vous m'aurez reconnu, hein, et je suis accompagné cette semaine de mon acolyte toujours, Yerem. Comment vas-tu, Yerem?
Salut à toutes et à tous, ça va super bien, ouais, c'est le
Under Siege.
Up-down world, upside world, comment ils disent dans cette série, hein.
C'est, je sais pas, Bizarre World, Reverse World, je sais
Mirror
pas, j'en
world.
Sais rien. Ouais. Et oui, on prend d'assaut le show rouge cette semaine parce que on en a marre de subir SmackDown chaque semaine. On a envie de voir des trucs stylés, alors du coup on s'est dit qu'on allait passer voir Raw cette semaine. Donc voilà. Écoute, d'ailleurs, le Raw, c'était le Raw du 26 février. Et il se déroulait où? Il se déroulait au Honda Center de Anaheim, en Californie.
Les Mighty Ducks.
Exactement. Les Mighty Ducks d'Anaheim. Type de... ouais. Et donc, en Californie, parce qu'on était juste après l'Elimination Chamber qui se déroulait à Vegas. Donc, pas très loin. Et qu'est-ce qui va nous ouvrir le show ce soir? C'est Alexa Bliss et Mickie James. Alexa Bliss, donc la championne qui a survécu à la Chambre Rouge seulement 24 heures auparavant. Alexa Bliss qui donc vient nous faire sa petite promo. Donc sympa hein, de commencer sur la championne féminine après cette Elimination Chamber historique pour les filles. Donc elle nous met over sa victoire de la veille, forcément. Hein. Après, on s'en souvient pour ceux qui ont vu le show et la review après sa petite promo post-Elimination Chamber où elle s'était jouée du public. Bon là, cette fois, ce soir, elle est full heel. Donc elle met over sa victoire de la veille, mais elle n'oublie pas de toujours... Elle dit qu'elle n'est pas égoïste. Hein. Elle met over Mickie James bien comme il faut. Elle essaye toujours de conserver cette sorte de relation qu'elle avait construit un peu de circonstances pour Elimination Chamber, mais elle essaye de garder un peu Mickie James sous le coude, on dirait. Donc elles ont eu des hauts et des bas toutes les deux, mais elle considère qu'elle a beaucoup appris de Mickie. Mickie, c'est l'expérience, hein. Et donc, elle félicite
la cougar,
aussi.
C'est la cougar. Ah,
c'est la cougar.
La cougar du catch.
Elle félicite un petit peu Absolution à demi-mot quand même, parce que comme c'est des méchantes, il faut les féliciter. Par contre, elle ne manquera pas de trasher Bailey, qu'elle traite un peu de sad situation, donc une situation un peu triste. Bliss, qui n'oublie pas non plus de brosser Nia Jax dans le sens du poil, hein, son ancienne meilleure amie, parce que elle rôde toujours, donc on sait jamais. Et puis elle finit par, en affirmant qu'elle battra Asuka à Mania. Donc tout ça c'est du très classique, hein, qu'elle va mettre fin à la streak. Donc quand on parle de la streak d'Asuka, forcément la japonaise débarque, donc elle arrive, elle est pas contente, on pense qu'elle veut dérouiller un peu Alexa Bliss, mais en fait non, elle monte dans le ring, puis elle se pointe un peu comme un piqué, puis elle attend que Alexa Bliss reprenne sa tirade un peu,
elle est pas là pour parler, hein. Elle est là pour casser des culs.
Voilà, donc Alexa Bliss se moque de Asuka qui comprend rien, machin.
Yo,
elle fait exprès de parler très fort et très doucement pour que Asuka puisse comprendre. Ce sur quoi Nia Jax arrive. Alors avant que Nia Jax puisse arriver, Asuka entreprend de coucher un peu de défoncer les méchantes qui étaient dans le ring. Sauf que Nia Jax arrive par derrière et c'est elle qui couche Asuka à son tour, mais elle arrive à placer Asuka avec la vivacité qu'on lui connaît, arrive à placer son armbar. Mickie James et Alexa qui reviennent à ce moment-là pour tabasser la challengeuse. La challengeuse d'ailleurs non déclarée encore. On ne sait pas
officiellement,
vraiment.
Officiellement, on ne sait toujours pas qui va aller affronter Asuka, effectivement.
Et forcément, 3v1, on le sentait venir. Donc, Sasha Banks et Bayley qui arrivent à toutes grandes enjambées pour le sauvetage. Grosse brawl des familles. Bon, là, ça, on le voit arriver gros comme une maison. Ce sera un tag team match 3v3.
Player.
Et puis d'ailleurs, ça enchaîne direct après. On va enchaîner. 3v3, entre les trois gentils, hein, puisque nous avons toujours une bisbille qui a soudainement disparu là entre Sasha Banks et Bayley, on sait pas trop. Et puis, du coup, Nia Jax, Mickie James et Alexa Bliss. Donc un match assez classique, hein, 3v3, c'est Sasha Banks qui prend pas mal la hit des méchantes. Et au moment, le fait significatif du match, hein, c'est qu'au moment où Sasha Banks cherche à faire le tag, elle cherche à atteindre sa copine Bayley. Et Bayley qui cette fois, elle en a marre, elle saute du tablier du ring et refuse le tag. sous les oh du public. Ça y est, Bailey se rebelle enfin.
Les wow et la grosse pop, hein, il y a une grosse pop.
Oui.
Hein.
Et Bailey fait preuve d'enfin un peu de caractère après deux ans, trois ans de platitude. Et donc elle refuse le tag. Par contre, Asuka, qui elle est toujours d'attaque pour tabasser et surtout ne veut surtout jamais perdre un match. Hein, c'est toujours marrant de la voir gesticuler au bord du ring quand elle sent que la situation lui échappe. Et donc elle, par contre, elle accepte le tag, hot tag. Running wide, là, elle fonce sur tout le monde, elle place son armbar sur Mickie James, et donc nous avons une petite victoire des gentils en une douzaine de minutes à peu près. Donc voilà, qui conclura d'ailleurs l'ensemble du segment féminin. Pour tout le reste, pas exactement.
Pas exactement.
Voilà, pour tout le reste du show. Donc voilà,
une nouvelle superstar près. Déjà, c'était, comme tu l'as dit, c'était vachement agréable de commencer avec une championne qui, Alexa Bliss, hein, qui effectivement. Vient vanter ses exploits. Alors, je sais pas si elle a fait exprès ou c'est moi qui me fais des films, mais dans sa promo, elle a dit qu'elle était là pour change the game, donc elle était une game changer, ce qui est un terme qui est utilisé vache pas mal pour décrire Ronda Rousey, justement.
Ah, d'accord, okay,
game changer. Du coup, je ne sais pas si c'était un petit clin d'œil ou pas, donc ça,
elle en est capable.
J'ai bien aimé. Et j'ai adoré, ouais, c'est vraiment sa promo de heel face à Otsuka, où elle prend le temps de bien découper chaque mot de sa promo. Et Otsuka qui est toujours aussi présente pour castagner et distribuer des coups de poing. Globalement, au global, je dirais, tout le monde a bien joué sa partition, que ce soit pour la promo ou le match. Moi, j'ai vraiment adoré la pop et de Bailey, et vraiment, comme tu dis, hein, c'est le fait du match. Oui. C'est Bailey qui enfin se rebiffe, montre que c'est pas juste une serpillière, quoi, parce que ça commençait à être. Enfin, il y a un moment où si un babyface du type Bailey se rebelle pas, c'est ce qui s'était passé en fait.
Oui,
c'est ce qui a fait que les gens ont commencé à la détester, c'est qu'elle était.
C'est plate,
elle était conne, elle se faisait marcher dessus, elle comprenait rien à ce qui se passait, et en plus on lui collait des putains de segments parmi les pires possibles dans les pattes, et elle se rebiffait pas, et t'avais l'impression que ce soit à l'écran dans les backstage, elle acceptait juste, elle disait oui à tout, et t'as pas envie de te ranger derrière un babyface qui accepte de se faire rouler dessus et qui se rebiffe pas. Donc là, enfin, et ça explique carrément la pop énorme qui a suivi le fameux wow dont tu parles, qui est quelque chose qui arrive pas si souvent que ça, finalement.
On a enfin un développement de personnage.
Ouais, c'est vraiment la grosse bascule, quoi. Parce que ce qui est marrant, c'est que... c'est écrit d'avance, on s'y attend tous, à ce qu'elle se rebiffe, mais ça arrive jamais. Du coup, le jour où ça arrive enfin, le public et les spectateurs étaient pris de court. Et pour moi, c'est vraiment un super moment. C'est pas grand chose, quoi, mais ça y est, on y va enfin. Elle montre un peu de caractère et on est entre guillemets rassuré ou un peu excité à l'idée qu'on ait enfin cette Bailey. Combattante qui a fait les beaux jours d'NXT et qui se révèle enfin. Ça aura pris deux ans, mais on y est, quoi. Et sinon, juste un petit coup de chapeau à Mickie James qui a super sell les coups de pied de Asuka qu'elle se fait tuer là, qu'elle fait passer yes kick, quoi, mais ces gros coups de pied, Mickie James, tu sais, quand ils se prennent des rafales de kick, souvent ils chancellent comme ça, elle, vraiment, elle se cognait la tête à chaque fois contre le ring, le tapis, puis elle remontait, c'était vraiment une super séquence, donc on est bien, je trouve qu'on reste sur la bonne dynamique après Elimination Chamber, vraiment des belles histoires qui continuent là, Donc
c'est surtout
aimé,
ça, parce que voilà, on arrive dans un multi-man, contrairement un peu à SmackDown, à développer à la fois Bailey, Sasha Banks, et puis garder la championne au centre des attentions aussi avec sa promo, continuer à builder Asuka. Enfin bref, on fait plusieurs choses On fait plusieurs choses en un seul petit match, contrairement à ce qu'on pourrait voir parfois à SmackDown où c'est le fourre-tout. Donc là, en effet, on a bien des histoires bien distinctes et des développements de caractère et de caractère de personnage bien distincts. Donc c'est vrai que c'est appréciable. J'avais un petit peu peur, ouais, moi, pendant la promo du début, de voir quand on voyait Banks et Bayley arriver main dans la main et faire des moves là pour chasser les méchants. Je me suis dit, tiens, ils ont déjà oublié, ça y est, c'est fini. Mais bon, du coup, ils avaient gardé ça pour le match.
Ouais, bah d'ailleurs, sur on salue le chat, évidemment, Monsieur Galouf, Monster Flo, Monsieur Tom, Richard, bon, les habitués, les tauliers, et puis les petits nouveaux. Et là, justement, Galouf s'étonne un petit peu. Lui, il est un petit peu étonné par le fait, justement, de l'alliance entre Alexa et Mickey qui a continué un petit peu, qui était de circonstances, comme tu as dit, pour Elimination Chamber. T'en penses quoi, toi ?
J'en pense que c'est vrai que c'est un autre petit truc qui m'avait chiffonné, mais léger, pendant la promo d'intro. C'est vrai qu'on pouvait se dire, bon bah Mickey, elle est mignonne, mais elle est un peu neuneu quand même de rester dans les jupons de la championne et de se faire brosser, de se faire brosser un peu dans le sens du poil aussi, parce que bon bah c'était clair comme le jour que Alexa Bliss était un peu pote pour histoire de pas être toute seule dans la chambre des éliminations. Mais bon, écoute, à la limite, moi j'aime bien parce que je trouve qu'elle a. J'aime bien plus pour ce que ça raconte avec Alexa Bliss, on va dire, parce que je trouve qu'elle a un bon personnage de manipulatrice, même si c'est ostentatoire, même si c'est cramé, même si c'est un peu over the top. Tu sais, elle est toujours dans le souci d'essayer de garder des alliés, une sorte d'un petit peu d'entourage autour d'elle avec Nia Jax toujours.
Exactement.
Et tout.
Ouais.
Et j'aime bien parce que. Bah clairement, c'est la plus frêle du roster, en fait. Donc, c'est vrai que tu te dis, ça colle bien. C'est ce côté un peu fourbe d'essayer de se baquer et d'être ultra mielleuse avec ses soi-disant amis. Ça lui va bien. Donc, ouais. Ça ne m'a pas trop gêné. Mais c'est vrai que Mickie James passe un peu pour une andouille.
Ouais. Moi, j'aime bien, effectivement. Je trouve que Alexa Bliss est vraiment le rôle parfait, la personnalité parfaite d'être une heel entourée, qui sait s'entourer. On l'a vu avec Nia Jax, même si ça n'a pas été suffisamment loin, malheureusement. On aurait aimé qu'elle soit vraiment son garde du corps pendant un bout de temps, et finalement, ils ont commencé un peu à les mettre en rivalité, si je me souviens bien. Ouais. C'était pas une grande réussite, ce qui était dommage. Ils l'ont fait, là ils le font avec Mickie James, ils l'ont aussi fait avec Braun Strowman, hein, avec le Mix Match Challenge.
Absolument.
Où elle est, il la porte sur ses épaules, quoi, et c'est super. Et elle est, cette petite, comme ça, heel qui se prend pour la déesse du catch, manipulatrice,
oui,
effectivement.
Elle s'appelle la goddess, alors que c'est vrai qu'elle vient un peu de nulle part et est toute petite.
Ouais, elle a besoin d'une cour, comme Charlotte pourrait avoir une cour aussi, parce que c'est la reine et qu'elle était la heel. Bah, c'est pareil, besoin d'une cour, des sbires. Voilà, ça se rapproche, cette notion de clan qu'on aime bien, quoi, quand c'est bien exécuté. Et je trouve bien, alors effectivement, Mickie James, bon, on va dire, voilà, elle approche de la retraite, elle se dit, vaut mieux être proche du pouvoir que trop éloigné. Donc, pour l'instant, hein.
Ouais. Allez. On va enchaîner avec quelqu'un qui n'aimerait pas, qui l'est tout simplement, qui est proche du pouvoir et qui devrait du coup avoir un petit peu plus tout ce qu'il veut. Bah, c'est John Cena. John Cena qui
c'est lui le pouvoir.
C'est lui le pouvoir d'ailleurs. John Cena qui était donc à Raw pour nous parler de sa déconvenue. John Cena qui a chuté dans l'Elimination Chamber, éliminé. De manière définitive et tonitruante par Braun Strowman dans l'Elimination Chamber de Raw pour la place de challenger numéro 1. Donc John Cena n'a toujours pas trouvé sa voie, n'a toujours pas trouvé son chemin, sa route vers WrestleMania est toujours barrée.
Faudrait qu'il demande à Ophelia Winter.
Exactement. Et donc, et bah, il est triste. Alors, on le voit, il est dans le ring. Il regarde la pancarte de Mania, hein, mais il ne la pointe pas du doigt, hein, parce qu'il n'a pas le droit de la pointer du doigt. Et il n'y va pas.
Je pensais que c'est le démange, par pur mécanisme.
Non, donc il ne peut pas. Donc, il nous explique qu'il traverse une période d'échec seul, qu'il est le dos contre le mur, hein, qu'il est un peu en période de doute, clairement. Mais il est sûr qu'il sortira plus fort de cette épreuve et que pour sortir de cette période de doute, il n'y a qu'une seule chose à faire et il va devoir faire quelque chose qu'il aurait dû faire il y a bien longtemps.
Coucher.
Et alors là, coucher.
Coucher avec le patron.
Coucher avec le patron. Coucher. Et non, il aurait dû faire quelque chose. Donc là, nous, le monde est suspendu aux lèvres de John. Le public attend qu'est-ce qu'il va dire. Et donc là, il déclame sans plus de suspense qu'il doit défier l'Undertaker. Donc alors là, il nous fait une parade digne des meetings politiques, là, les deux bras en l'air, ils tournent dans le ring, genre challenge the Undertaker, comme ça, sous
le public était
public.
Dingue. Hein.
Évidemment que le public est dingue, donc là, bon, on est dans l'éternel sujet de bon, bah oui, on aimerait bien garder le Taker à la retraite parce qu'il vaut plus grand chose, mais c'est vrai que quand on nous agite ça sous le nez, nos petits cœurs de fans se serrent et on se dit que bon, bah c'est vrai qu'on aimerait bien voir ça avant qu'il parte, donc forcément, le public est fou. Le public est debout, défie l'Undertaker, sauf que alors là, John Cena, dans la plus pure tradition heel, puisque alors, j'ai pas trop apprécié, hein, John, bah, il nous dit tout de suite, direct, sans emphase dans la foulée, bah oui, mais ce match n'aura pas lieu. Ce match n'aura pas lieu parce que bah, on lui a dit, la hiérarchie, les hauts placés lui ont dit que ce n'était pas possible, qu'il ne pourrait pas affronter l'Undertaker.
Bah, c'était pour qu'on ressente le même sentiment.
Ouais, exactement. Et puis alors il nous dit en plus, hein, voilà, maintenant vous savez ce que c'est que de ressentir
la frustration, la défaite.
Ah oui, merci, oui.
Connard.
C'est très gentil de ta part. Et donc du coup, bah, vu que ça s'est bloqué, il va devoir, il n'y a plus qu'une seule solution, c'est il va devoir passer, sa route vers Mania passera par SmackDown, et donc il annonce que bah, dès demain, il sera à SmackDown pour trouver une solution, coûte que coûte, pour aller à WrestleMania, donc rendez-vous demain. Donc bah, voilà, Yarem, qu'est-ce que tu as pensé de cette promo, et qu'est-ce que tu as pensé de... Bah, est-ce que tu penses qu'on va avoir Cena versus Taker ou autre chose? C'est quoi la route pour Mania?
Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette promo. J'ai beaucoup aimé cette promo d'un John Cena. Alors, le fameux Never Give Up, là, il a jamais été autant mis à l'épreuve. J'aime bien cette route. C'est pas facile hein, d'écrire une route à WrestleMania à John Cena qui soit originale. Et j'ai trouvé que celle-ci était bien parce que, effectivement, on continue un peu dans ce côté. Le mec, il est free agent. Il s'efface un peu face aux jeunes, mais il va encore montrer que c'est lui le taulier. Et là, c'est la prise de conscience que, avant, c'était quasiment automatique. Il avait un programme, il n'avait même pas à se poser de questions. Et là, le temps passe et tu te dis merde, en fait, c'est dans deux semaines et j'ai rien, quoi. Enfin, toi, j'ai rien. Donc, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et le fait qu'il invoque Undertaker, c'est vraiment c'est l'invocation ultime, tu vois. C'est même c'est de l'impertinence totale, mais qui est nourri par le fait qu'il sait que lui, il peut le faire, toi. Et quelque part, il l'invoque en disant effectivement que pour nous dire, voilà, ce match n'aura pas lieu, donc voilà, vous êtes triste, vous êtes frustré comme moi, mais dans un coin de sa tête, ça, c'est l'analyse du personnage, hein, même si ça mêle à la fois le réel et le personnage en lui-même, mais là, les deux sont tellement proches. Tu te dis, il sait que ça va germer dans l'esprit de l'Undertaker, ça va germer dans l'esprit des bookers, ça va germer dans l'esprit des gens, ça va faire parler, toi. Et un autre programme, peut-être, va l'attendre.
On ne sait pas.
Franchement, je ne pourrais pas me prononcer sur ce qui va se passer, à part dire. En fait, cette promo a réussi à me faire passer de noir à gris sur la question de Cena versus Taker.
C'est possible.
Est-ce que c'est possible? Parce que c'est possible, mais est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est pas trop? Je me dis, si c'est bien écrit, si on fait vraiment passer ça pour un caprice de John Cena et que je sais pas, enfin, après, derrière, quel est le développement que tu peux apporter, mais au moins dire, bah voilà, on utilise ça pour montrer une autre facette de John Cena qui est très intéressante, celle du caprice, du mec qui vraiment utilise les dernières ficelles du mec qui atteint tellement les sommets, qui peut faire, qui fait de la vraie, qui fait de la politique, et là, il s'en cache même pas, toi. Enfin, il le fait pas, c'est pas qu'il s'en cache pas, mais. Enfin, il le fait, quoi. Hein. Et quand bien même, dans sa promo, il dit « c'est pas moi qui décide des matchs ». Hein, et à un moment, il fait ça. Mais en faisant ça, il le fait quand même un peu, toi. Donc, il est toujours là. Et là, je me dis « pourquoi pas ? Pourquoi pas un Cena Taker ? Ce sera moche, ce sera dégueulasse. Et on adore, on a, on, tous, on adore cette image, cette dernière image du Taker hein, qui avait posé
Oui,
le...
moi j'avais beaucoup aimé. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, là c'est ce que j'avais pu dire sur le forum des Cahiers du Catch, sur Skype avec les membres de la rédac, tout ça. C'est un peu un caprice égoïste dans le sens où bon bah c'est vrai que cette année on a la chance d'y aller. Bon bah franchement, je m'en fous. Enfin moi je veux voir ce match quoi. Après dans d'autres circonstances, je sais pas si j'aurais été aussi catégorique parce que l'image de fin, je suis d'accord. Moi j'ai trouvé que ça aurait fait un magnifique match de retraite, le match contre Rennes, je trouvais que c'était très beau, malgré toute l'exécution du match et la réception qu'il a pu avoir au niveau du public. J'ai trouvé que le côté de la démystification du personnage, l'humanisation du
Ouais.
Taker tout au long du match et le fait qu'il dépose tout ce qui faisait de lui un être surhumain pour repartir un petit peu en homme, je trouvais que c'était très très beau comme allégorie et comme fin, je trouvais
Ah
que c'était
oui.
sympa. Mais bon, bah écoute, après, s'il y a moyen de faire Cena Taker avant de partir,
Bon là, c'est vraiment
c'est vraiment pour ma gueule,
c'est
quoi, mais bon,
biaisé quoi.
mais bon, je
J'avoue,
serais
ce
pas
serait
contre.
frustrant quand même d'aller à WrestleMania et que le Taker soit pas
Ah,
là. Hein.
ouais.
Ben bon.
Non, mais bon, moi je suis d'accord, il y a pas mal de choses qui seraient très intéressantes à écrire, hein, comme tu dis, hein, il y a le Cena pourrait faire un peu un heel de circonstance pour WrestleMania face au Taker, assez intéressant, un peu en nuance sur ce côté, finalement jouer sur tout ce qu'on lui reproche depuis des années, le côté politique, qui pourrait assumer, tu vois, genre, tiens, c'est la première fois qu'on me refuse quelque chose, c'est la première fois qu'on me dit non, surtout que par le passé. Il pourrait faire écho à pas mal de rivalités, d'anciennes rivalités. Et d'ailleurs, pas plus tard que l'année dernière, hein, quand il disait aux Miz avant WrestleMania dans la Road à Mania, écoute, si vraiment je faisais ce que je veux, si je tirais les ficelles backstage, est-ce que tu penses vraiment que je serais contre un punk comme toi? Non, je serais contre le Taker maintenant, connard. Je serais en train de me friter contre le Taker si je
Bien
faisais ce que
sûr.
je veux et tout. Et là, bah justement, il aimerait bien faire ce qu'il veut, il aimerait bien se friter contre le Taker, mais il peut pas. Et je trouve que ce serait intéressant de jouer là-dessus. Je suis assez d'accord. Ça pourrait faire quelque chose de pas mal. Ça pourrait faire quelque chose de pas mal. Après, dans l'exécution, moi, il y a des trucs qui me dérangent au niveau de la promo.
Ah.
Tout n'est pas parfait. Je trouve qu'il y a des choses qui sont très intéressantes qui mériteraient d'être exploitées. Il y a d'autres trucs qui me gênent un peu plus sur le fait que bon bah. SmackDown passe un petit peu pour une solution de repli quand même, hein, entre guillemets. Dans l'histoire, parce que bon bah voilà, il a échoué, il a pas réussi à avoir ce qu'il voulait à Raw, bah du coup il va dire bon bah écoute je vais aller voir à SmackDown ce qui se passe pour voir si je peux pas trouver quelque chose, si je peux pas trouver à grailler, tout en occultant d'ailleurs complètement le fait que bah il a tout essayé, oui et non, enfin il y a quand même il y a encore du beau monde à Raw peut-être pour il y avait peut-être d'autres choses à faire. Est-ce qu'il aurait pas pu se dire, tiens, j'ai envie de défier Braun Strowman, j'ai envie de défier Finn Balor, j'ai envie d'aller cogner le Miz pour le titre intercontinental, qui est la seule ceinture qui lui échappe depuis toujours. En fait, j'aime l'idée, mais il y a des écueils en fait dans l'écriture de ce truc-là qui font que nécessairement tu mets au second plan tout un tas d'autres choses qui sont en fait on raconte sans vraiment le vouloir que bah finalement Cena enfin il est bien 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 au-delà et bien au-dessus de tout le reste qui pourrait être intéressant à Mania quoi. Donc c'est vrai que c'est le seul truc qui me chiffonne un peu. Mais bon,
Ouais,
il y a
non,
des
t'as
choses
raison. Ouais.
il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des choses qui sont intéressantes, j'espère qu'elles seront creusées dans ce sens-là. Mais bon, la suite à SmackDown puisque nous retrouverons donc John Cena à SmackDown cette semaine. Et
Yes.
on va continuer avec une note un peu plus légère, puisque nous avions Bray Wyatt qui était prévu pour cogner sur Heath Slater. Mais finalement, il ne s'embarrassera pas trop du match. Bray Wyatt, si j'ai bien compris, il n'a jamais vraiment commencé ce match,
Non.
puisque finalement, il déglingue un petit peu la tronche de Heath Slater et Rhino en même temps, hein, Sister Abigail sur tout ce beau monde. Donc il se défoule un petit peu, Bray Wyatt. Slater et Rhino qui sont toujours parfaits dans ce rôle de punching ball un peu marrant. On aime bien les voir gagner, on aime bien les voir perdre. C'est vraiment les bonnes poires un peu de Raw qui servent bien dans ces cas-là. Donc Bray Wyatt, voilà, il a fait ce qu'il avait à faire et derrière il prend le micro et puis il invoque un peu Matt Hardy. Hein, il dit la grande guerre, hein, the Great War, est loin d'être terminée. Donc écoute, manifestement, ce n'est pas fini. Donc on en mangera encore un petit peu, peut-être jusqu'à Mania, peut-être avec Jeff Hardy. Est-ce qu'il reviendra à temps? Est-ce qu'il va se greffer à tout ça? Pour le moment, c'est un stand-by, on va dire.
Ouais, franchement, j'ai rien à signaler là-dessus, il y avait Il s'est rien passé, donc. À part la confirmation que ça continue, quoi.
Ouais.
On est d'accord.
Voilà, c'est ça, exactement. On continue. On continue avec encore une autre promo. Il y avait beaucoup de promos hein, cette semaine, beaucoup de promos ouais. dans le ring, beaucoup de temps de promos. Et alors là, c'est parti pour le Miz Show. Alors là, c'est pendant une heure quasiment, c'est lancé. Donc le Miz, bah, qui arrive au centre du ring, flanqué hein, de son mistourage évidemment. Donc là, il nous avait peut-être pris un petit supplément vitaminé hein, parce qu'il était très très chaud le Miz. Il était pas très content. Donc il se met over. Hein. Bon voilà, bah il se met over hein, comme il sait faire. C'est le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Sachez messieurs que dans 62 jours, il va dépasser tout le monde. Ce sera le plus long règne. Championnat intercontinental, ce qui est quand même assez dingue. Donc il lui dit les Pedro Morales, les HBK, les Bret Hart, les Edge, les Jericho, tout ça c'est dépassé. Il cite même Roman Reigns, on sait pas trop pourquoi parce qu'il a pas.
Oui, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, il a des beaux noms.
Ouais, il a pas beaucoup, il a ceinture intercontinental quand même. Hein. Donc du coup, il est même donc voilà, ça va être le plus grand à la WWE, le plus grand champion intercontinental de l'histoire. Il se gêne pas pour dire que d'ailleurs, il est même encore plus big hors de la WWE que dedans. Hein. C'est une superstar dans les médias, TMZ, machin, le cinéma, Hollywood et compagnie. Et donc, il en a marre qu'on lui manque de respect. Donc là, c'est le Miz Show, tout pour ma tronche. J'en ai marre. Et donc, il veut connaître son adversaire pour Mania. Il n'y a plus d'histoire. Je veux pas être relégué au pré-show. Je veux être sur la carte qu'on m'amène mon adversaire. Et donc, alors là, j'ai pas forcément bien suivi savoir si le match était déjà prévu ou si on lui a foutu dans les pattes sur le moment. Mais je crois que donc il nous explique que son adversaire en fait va dépendre un peu du match qui va suivre. Si j'ai pas trop, je crois que Kurt Angle en fait lui avait booké des petits matchs pour ce soir. Et donc bah du coup, qui on voit arriver, bah c'est Seth Rollins. Donc Seth Rollins qui vient et puis ils enchaînent d'ailleurs sur le match tout de suite. Donc je vais pas vous refaire le match, mais écoute, je l'ai trouvé très sympa ce match, notamment pour Seth Rollins qui en ce moment, depuis un mois, il est complètement en transe. Seth Rollins, il fait le catch de sa vie hein, entre sa performance d'Iron Man de plus de 60 minutes contre Reigns et Cena dans le Gauntlet de la semaine dernière, mais déjà même avant, et puis à l'Elimination Chamber, il était en feu. Je sais pas, en ce moment, il est en période de rédemption.
Il a retrouvé la folie et l'énergie qu'il avait quand il a caché à WrestleMania.
Il a un feu dans le ring, c'est juste incroyable. Donc le match est très plaisant. Victoire en 13 minutes de Seth Rollins sur son Revolution Knee, je sais plus trop, qui l'enchaîne avec un splash digne des plus grands, parce qu'il fait les trois quarts du ring là.
Tellement loin qu'il fait encore plus mal, ce qui n'est pas forcément logique, j'en sais rien. Mais...
Le coast-to-coast splash de dingue, en plus j'adore parce que du coup, ça lui fait potentiellement un nouveau finisher, ou en tout cas c'est sympa de finir, moi j'aime bien de temps en temps en weekly de casser un peu les codes et de finir sur, de pas finir sur un finisher bien acté. Donc superbe victoire de Seth Rollins qui, bah, du coup, se pose manifestement en challenger, en challenger plus qu'en challenger, en prétendant, assez évident pour la ceinture. Sauf que, bah, écoute, apparemment, c'est pas fini, parce que Kurt Angle avait prévu des surprises pour le pauvre Miz, ce qui se passe, bah, il voit Finn Balor, la musique de Finn Balor qui arrive. Bah oui, bah, on enchaîne. Deuxième match pour le Miz, dans la foulée, pas de repos. Donc là, pas fou. Le mistourage hein, qui intervient évidemment.
Évidemment.
Il dit, bon, écoute, attends, ça va là, hein, ça suffit. Donc il laisse à peine le match commencer.
Oui.
Il fonce sur Finn Balor, disqualification, patati patata. Alors du coup tabassage en règle sur Finn Balor. Bah qu'est-ce qui se passe? C'est le club, c'est les Good Brothers, Luke Gallows et Anderson qui arrivent. Donc c'est le bordel. Alors on se dit, oh, bah non, attends, ils vont nous refaire un 3v3 comme à l'intro. Eh bien non, Kurt Angle cette fois. A décidé de faire preuve d'originalité et il bannit tout le monde des abords du ring et il dit on restart the match, on continue. Et d'ailleurs il y a une menace hein, je crois hein, sinon c'est, je crois que tu seras pas tu perds le titre,
ouais, tu seras pas à WrestleMania, je crois,
tu seras pas à WrestleMania, ouais, c'est ça,
sans vraiment dire pour qui pourquoi, mais bon voilà. C'est quand même une
donc,
sacrée
du coup,
menace.
Bah ouais, donc du coup, bah on continue.
Sinon, John Cena prend ta place.
Voilà.
Et là, John qui revient.
Et donc, et donc un match, bah le match enchaîne, plutôt bon aussi. J'ai plutôt bien aimé. Alors moins foufou que le premier. Le pauvre Miz hein, qui douille, il en peut plus. Et puis bah assez fort logiquement finalement dans un 1v1 sans interférence, il finit par craquer sur un coup de grâce de Finn Balor au bout de 11 minutes environ. Ce qui nous clôt le Miz Show qui à lui tout seul a tenu à peu près toute la deuxième heure d'Euro. Ouais. Il l'a porté à bout de bras, cette deuxième heure qui parfois nous fait un peu piquer du nez à Raw. C'est peut-être un peu le moment creux jusqu'au main event. Bravo au Miz qui nous a fait une sacrée prestation.
Ouais, super prestation. Alors, la promo, déjà, elle était super. La promo du Miz, hein, il est toujours habité, hein, le Miz, quand il fait ses promos comme ça, là. C'est le taulier, hein, dans l'exercice. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette promo dont tu as parlé là au début, effectivement. Alors après, effectivement, Seth Rollins, le premier match a été vraiment cool. Seth Rollins, comme tu dis, il est en feu
magnifique.
C'est beau en fait. Je sais pas, ça lui va bien en fait.
C'est l'art, ces promos, hein. C'est vraiment. De toute façon, pour moi, c'est actuellement le meilleur en promo pur comme ça.
Ouais. Et alors on a probablement le mec qui est plus en feu en termes de promo face au mec qui est plus en feu entre les cordes.
Oui.
Du coup là il y a une super dynamique, toi. Seth Rollins, ça a l'impression que le mec ça fait un mois qu'il court.
Il catch comme si sa vie en dépendait.
Tu vas dans les couloirs du stade, je suis sûr, dans les travées, il est en train de courir. Et puis il passe devant la gorilla position à chaque fois, puis il attend. C'est à moi, oui. Puis hop, il y va. Et puis il fait son match, et puis il repart en courant, tu vois.
Ah non, il a plus le temps de niaiser là. C'est la mania, c'est la road to WrestleMania. Lui, il est là, il défonce tout.
Ouais. Alors, par contre, là, le cas Finn Balor est un peu plus étrange, ou c'est le cas Kurt qui est un peu plus étrange. Je ne sais pas trop. En fait, on verra plus tard que Kurt dans sa tête, ça va pas trop. Ce booking de match là, clairement. Enfin, voilà, on se retrouve encore à booker à mettre dans un drôle de rapport entre le heel et le traitement qu'on fait un heel et celui qu'on fait un face, parce que Finn Balor, voilà, je pense qu'il est il joue un peu le tweener, hein, Finn Balor, dans ce triangle amoureux. D'ailleurs, même les commentateurs ont galéré à justifier les actions de Kurt Angle. Ils se sont pris pas mal la tête là avec le coach et puis Corey Graves, ils savaient pas trop sur quel pied danser. Corey Graves d'ailleurs, là, c'est la coupe sa goutte de chaud, là, c'est de pire en pire. Ce blond là,
ça devient assez terrible.
On dirait une meringue qu'il a sur la. Et du coup, ouais, le deuxième match était moyen. Surtout, voilà, vraiment le Miz, comme tu l'as dit, il a tenu une heure quoi. Après l'exploit, il y a une ou deux semaines de Seth Rollins, tu dis dans un autre exercice.
Une heure de catch, mais en tout cas, il a meublé quasiment une heure de show.
Enfin, la promo qu'il fait, t'en as un paquet dans le roster. Ils vont à l'infirmerie après, tellement il s'est donné à fond et que les vaisseaux qui sont prêts à exploser. Ouais. Donc voilà, c'était ça demande plus de cardio qu'un match de The Rock, toi. Donc voilà, mais la foule était bien bien chaude. Voilà. Pour Finn Balor, c'est un peu plus délicat, mais au final, cette triplette là, cette triple frite, comme on aime bien dire à Ketchup.
Ça sent la triple frite quand même.
Qui s'annonce, c'est un très très beau programme pour trois catcheurs qui, pour moi, collent parfaitement à l'image qu'on peut avoir du titre intercontinental.
Ouais.
Donc, on va pas trop bouder notre plaisir. On va se contenter de dire que Kurt Angle est juste complètement abruti et qu'il fait n'importe quoi.
Il est fou. Il est fou. Après, bon, c'est toujours la même chose. On aime voir les heels toujours prendre la pâtée et s'en prendre plein la tronche. Enfin, normalement, on accepte plus volontiers ce type de traitement sur un heel, enfin, en tout cas le public l'accepte plus, mais l'accepte plus aussi parce que le Miz est un excellent heel dans sa façon de catcher aussi, parce que ce qui était assez dangereux, c'est vrai que c'était d'envoyer Finn Balor en deuxième comme ça dans la foulée. Mais ce qui était dangereux, c'est d'attirer finalement de la sympathie pour le Miz.
Moi j'en avais, toi.
Alors on en a fatalement, mais c'est vrai que sa façon de catcher, je trouve qu'il s'était assez intelligemment ensuite rattrapé pendant le match, où il continue tellement à catcher comme un salaud. Et Finn Balor, qui mine de rien est assez bon après en babyface et tout dans le ring, fait que on a réussi à conserver un petit équilibre quand même. Mais c'était, ouais, c'était assez périlleux. C'était pas forcément la meilleure solution pour garder bien les choses bien nettes. Mais bon, à voir ce qu'ils veulent faire de tout ça.
En tout cas, Rollins s'est pas impressionné. Hein, c'est ce qu'il disait dans l'interview, non, je crois.
C'est ce qu'il disait en effet dans l'interview après, puisqu'on on est venu l'interviewer, on lui a dit bah non, écoute, je suis pas du tout impressionné par le fait que Balor ait battu quelqu'un que j'ai déjà battu. Donc, ça a le mérite d'être clair et c'est le mérite d'être pas être faux. Donc, du coup, bah écoute, la situation autour du titre intercontinental reste entre les mains du savant fou Kurt Angle. Il va devoir démêler tout ça, savoir qui est légitime, mais c'est vrai que ça sent un peu la triple frite. Allez, on va continuer bah, avec quoi ? Bah, avec une promo. Eh bah, oui, c'est encore une promo.
C'est promo.
Encore une promo.
C'était Monday la night, soirée, promo.
Exactement, c'est pas mal ça. Donc c'était la soirée des promos dans micro, centre du ring. Et cette fois, c'était au tour de Roman Reigns, the big dog, qui est là bah, pour nous parler de qui ? Bah, pour nous parler de Brock Lesnar, puisque bah, en début d'émission, nous avait annoncé un face-à-face. Et le problème, c'est qu'il n'y a que Roman Reigns dans le ring. Que se passe-t-il ? Donc là, bah, Roman Reigns, on sent que ça le dérange un peu. Il prend le micro, puis un peu sur le ton de la confidence, il nous dit bah, écoutez, je suis un peu vénère, là, je vais vous dire quelque chose, ça ne va pas plaire derrière, ça ne va pas plaire backstage, mais bon, tant pis, il faut que je le dise, moi j'en ai marre. Et alors là, ça part en shoot, comme on dit sur Internet, promo ultra intense. De Roman Reigns qui nous explique que bah, en fait Lesnar il en a rien à foutre de nos gueules, que bah, il a no show en fait, tout simplement. Il était annoncé mais il a no show, il s'est pas pointé à l'arène, il est pas là, et que c'est une petite catin quoi. Il le traite un peu il le traite de bitch, hein,
de
très
plage.
Clairement. Donc il nous dit bah ouais, à l'Elimination Chamber, on était tous en train de se casser le cul pour sa ceinture à Vegas, et lui qu'est-ce qu'il foutait? Bah il était sur le strip à Vegas à prendre des photos avec Dana White, au calme, tranquille. Et puis bah lui voilà, il explique que de toute façon Brock Lesnar et Paul Heyman, c'est des businessmen, hein, qui viennent que quand la thune est là. Il y a un petit jeu de mots en anglais parce que donc c'est des businessmen, mais lui par contre, c'est un homme qui est dans le business. Roman Reigns depuis toujours, et il vit WWE, il vit catch depuis toujours, hein, il fait pas des petits allers-retours quand ça l'arrange. Donc il a qui nous précise bien, j'ai aucun respect pour Brock Lesnar, donc il le retraite encore de bitch un petit coup, hein. Et puis bah quand il a fini de vider son sac, bah il nous explique bon bah allez, maintenant je vais aller me faire engueuler comme il se doit derrière, parce que je sais que ça a dû irriter, ça a dû piquer un petit peu là ce que j'ai dit, mais bon, il fallait que vous le sachiez. Oui. Bah écoute, hein. Et puis bah donc il lâche le micro, il repart comme il est venu, hein, la mine des mauvais jours. Il est pas content. Bon, est-ce que déjà on n'a pas eu peut-être la meilleure promo de Roman Reigns depuis une éternité?
Ah, depuis une éternité. Si l'éternité s'arrête au fameux This is my yard now. Ouais.
Ouais.
Alors c'est la meilleure.
Bon alors ça fait qu'un an ça.
ça peut être une éternité.
La vraie promo qui peut-être enfin fédéré derrière lui.
Mais en tout cas, c'est la promo. Tu as vu l'étincelle quand il a senti que la foule soudainement
ouais.
était derrière lui, qu'il s'est mis à bouger, qu'il a arrêté d'avoir ce bitch de balai dans le cul, ce
ouais.
fucking balai dans le cul, et qu'il s'est mis à marcher un peu à la John Cena.
Ouais, tu vois, tu sens il rumine
the ring.
Genre, ouais,
le ring lui appartient, il est chez lui, il est à la maison. Ce qui pour un mec qui a déclamé This is my yard après avoir battu l'Undertaker est enfin logique, toi. Si c'était chez toi, tu restes pas planté comme un con au milieu à te faire un peu pourrir par les rois de la promo. Non, tu y vas. Et l'étincelle qu'il a senti
que c'était le moment. Ouais.
C'était le moment.
Il s'est lâché, tu vois.
Ouais. Ouais, il s'est carrément lâché. Donc ça, c'était vraiment, vraiment appréciable. Sur la promo en elle-même, alors voilà, on n'est pas dupes. Hein,
évidemment.
Le no-show de Lesnar.
Bien évidemment, c'est un work.
Voilà, après, on lit pas les dirty shit et compagnie. Peut-être qu'effectivement, le vainc a vraiment no-show, mais tout ça a été bien orchestré quand même. Dans tous les cas, on nous a bien teasé dès le début le face-à-face. Bon,
c'était bien joué.
Ouais, ouais. La promo, le contenu de la promo, je suis un peu mitigé. J'aime bien parce que ça me. Ben voilà, c'est le Roman Reigns qu'on a envie de voir. Il a cette facette-là qu'on a envie de voir. On vient d'expliquer pourquoi. Après, c'est ça reste compliqué à accepter à 100%, tu vois, cette révolte qui je trouve en lui,
Pourquoi?
parce que il, comment dire, ouais, il dit qu'il a ça dans le sang, etc. Je veux bien croire, mais enfin, je sais pas, j'ai pas mordu à fond. Moi, je me suis dit, bon, j'ai encore du mal à me détacher de cette image de comment de project, toi, de franchise player que le Stamford lui donne. Et
Ah oui, le fait qu'il ait vraiment été choisi, quoi, c'est
ouais, c'est ça. C'est pas,
l'élu.
je voudrais pas qu'il retourne dans ce délire d'underdog. On n'y est pas.
Non, mais ça a pas l'air d'être
Non,
ça,
non, on n'y est
hein.
pas, mais voilà, pour moi, il faut juste faire attention à ça. C'est juste une appréhension que j'ai, hein, toi. Concrètement, c'est pas ce qui s'est passé entre les
Mais
cordes.
ouais.
Il parle surtout de se faire tirer les oreilles en revenant par les patrons. Mais voilà, là, il a trouvé vraiment.
Mais je pense qu'ils ont trouvé l'angle, en fait.
Ils ont trouvé
C'est
un des angles qui était bien. L'autre angle qui était cool, c'était l'angle qu'il avait pour le This Is My Year Now, qui était quelqu'un de un peu plus
qui est
presque
plus il, là, pour le
plus
coup.
heel, ouais, plus prétentieux, on
Que...
va
Ah,
dire. Mais
ouais.
celui-ci, bien, parce que celui-ci fait lever les foules. Et qu'est-ce qu'ils veulent à la WWE? Ils veulent un Roman Reigns qui soulève les foules. Donc là, le gros boulot qui est fait aussi sur Brock Lesnar pour attirer de la hate sur Brock Lesnar, il est bon. Effectivement, le mec qui no show, ça, c'est vraiment le truc que les gens supportent pas, quoi.
Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est pour ça que moi je trouve qu'elle est assez fondatrice quand même cette promo et enfin, c'est vraiment l'angle pour moi, l'angle vraiment parfait pour toucher tout le monde en fait parce que les smart peuvent pas contredire Roman Reigns en fait sur ce qu'il dit. Enfin, c'est assez implacable et c'est assez intelligent d'attaquer Brock Lesnar là-dessus parce que. Bah, c'est vrai, enfin, Brock Lesnar, alors voilà, quand il se pointe, tout le monde est en feu, c'est la folie, parce qu'on le voit jamais et tout. En fait, c'est les bons côtés, on va dire, du prize fighter, un peu du champion qui se pointe que pour les pay-per-view et pour les big fights et tout. Ça, c'est le bon côté, mais c'est vrai que ce qu'on n'oublie pas tant que ça, je pense que c'est quelque chose qui reste un peu dans l'arrière de la tête un peu de tous les fans depuis plusieurs années, c'est que Brock Lesnar nous prend en otage quand même un peu depuis plusieurs années avec cette histoire de titre, ce titre confisqué par Brock Lesnar depuis des mois. Alors, quand il revient, on oublie tout, la musique pop, il arrive avec sa ceinture, il sautille, on oublie un petit peu tout ça et on se dit, ah
Vieux
yes,
réflexe
cool.
pavlovien,
Ouais, le
quoi.
réflexe me vient, Brock Lesnar est là. Mais c'est vrai que bah, c'était intéressant de dire vraiment, enfin voilà, genre Brock Lesnar en fait. Et même les smarts là-dessus seront d'accord avec René. Bah, c'est vrai qu'il nous pourrit un peu notre
Ouais,
scène
on se plaint tous de ça.
pour le titre universel. Et c'est pour ça que l'angle est intéressant de le faire dire à Roman Reigns. C'est pas mal. Et bon, alors, il réinvente pas la poudre. Hein, c'est sensiblement la même promo que Cena avait pu faire en 2014. Enfin, quand le retour de Lesnar, quand il s'était avec la feud, contre Cena quand il était revenu et qu'il l'avait tabassé juste après WrestleMania.
Ah, il s'inspire des plus grands.
Ouais, dans la foulée, il avait dit un petit peu, ouais, bah moi je transpire, je sais une WWE, toi tu reviens un petit peu quand tu veux, machin, machin et tout. Il a pas réinventé la roue. Mais c'est un petit peu différent dans le sens où là, il l'attaque pas juste pour être un part-timer. Enfin, c'est genre vraiment, il y a le côté un peu mercenaire aussi. Enfin, c'est genre. C'est le businessman, il pense qu'à sa tronche, il se pointe que pour la thune. Moi, je trouve que l'angle du no-show est vraiment bien trouvé parce que
Ouais.
c'est, y a rien de plus frustrant que ça. Donc c'est pas exactement, c'est encore un peu plus violent, je trouve, que le côté juste part-timer versus le mec qui catche tous les jours dans les house shows et compagnie. Donc l'angle est vraiment pas mal.
Ouais, non,
Euh,
non,
et
et
il y a quelque
vraiment
chose.
plus,
Ouais.
c'est le côté vraiment, enfin, effectivement, Roman Reigns, tout le monde a eu, enfin, les gros, quoi, les costauds ont eu leur chance d'aller chercher Brock Lesnar, ils ont tous échoué, et il reste plus que lui, en fait, il reste plus que Roman Reigns pour aller le
Eh oui,
chercher,
puisque.
et c'est le plus apte, et on le sait, et il y a vraiment ce mélange entre la réalité, enfin, on sait concrètement que c'est lui qui est destiné à aller chercher,
A tuer la bête, c'est
à tuer
lui,
la
c'est
bête, c'est
sûr.
lui. Et c'est son destin. Et du coup, c'est vrai que là, ils arrivent à dire ouais voilà, enfin il va nous libérer d'un poids s'il y va, toi il va nous libérer d'un poids et enfin on va revoir cette belle ceinture rouge universelle qui nous a fait vibrer que ce soit avec Finn Balor ou Kevin Owens.
Exactement, c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est parce que on aurait pu tomber dans le sempiternel je suis le big dog, c'est je vais gagner la ceinture, machin, enfin une promo un peu auto-centrée, c'est-à-dire je vais le faire pour ma gueule parce que je suis le meilleur.
Yeah.
Et le truc c'est que du coup quand t'entends ça bah t'entends y en a plein qui ont l'impression d'entendre Vince derrière, tu vois, ah, je suis le meilleur, bah oui c'est parce qu'on t'a dit que c'est toi qui étais le meilleur et qui allais gagner et tout, c'est une promo qui est auto-centrée. Et là justement ce qui est très intelligent c'est que il déplace la question sur Brock Lesnar et du coup il déplace la hit sur Brock Lesnar. Exact. Au lieu de parler de tout le temps de sa gueule et de parler du fait qu'il est underdog mais il va surmonter machin et qu'il va gagner et tout, on s'en fout. Non finalement là ce qui est très intéressant c'est que du coup il déplace complètement le problème sur Brock Lesnar et il dit écoutez vous avez vu cet enfoiré, il en a rien à foutre de votre tronche, il vous a no show, c'est un gros connard, il fait ça depuis des mois, on en a marre et ça fonctionne. Bah oui ça fonctionne parce que c'est vrai. Et du coup, on n'est pas en train de se branler la nouille sur Roman Reigns et savoir si c'est plus fort. Et donc, c'est pour ça que c'est le bon angle, je pense, pour arriver à faire une grosse victoire. Parce qu'elle arrivera, hein. Vous pouvez déjà signer le bon de pronostic à Mania, il va gagner, ça c'est sûr. Mais il faut arriver à ce que ce soit un grand moment et derrière qu'on puisse capitaliser dessus. Donc, écoute, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé cette promo. J'espère que
c'est vraiment je conclurai en disant que c'est vraiment tu sais on dit un mal pour un bien et c'est ça. On a parlé pendant le pré-show.
Exactement.
Roman Reigns, c'est un mal pour un bien.
Il faut que ça arrive.
Il faut que ça arrive parce que ça va tout libérer derrière. Et ils s'y construisent l'histoire là-dessus en le faisant bien là comme ils l'ont fait, ils vont réussir à avoir ce qu'ils espèrent, c'est-à-dire avoir de la pop pour Roman Reigns.
Oui, mais en plus, il en a déjà eu par le passé. Il a déjà eu des grosses victoires qui ont été acclamées par la foule parce que ça venait d'une vraie bataille, d'une vraie montée et tout. Bon, après, voilà, ce sera le sujet d'une autre émission. Le fait qu'ils aient jamais vraiment capitalisé là-dessus, on a eu un grand débat sur la question. Mais bon, j'y crois. J'espère qu'ils vont foncer sur les bases de cette promo qui était vraiment excellente. Allez, on va enchaîner. On va essayer d'accélérer un petit peu jusqu'au main event. Je ne sais pas passer grand chose après.
Non.
Nous avons eu un petit rematch. Alors, va savoir pourquoi. Titus Worldwide, après s'être fait battre de manière définitive à l'Elimination Chamber, ils avaient le droit à un petit 2 out of 3 falls contre The Bar ce soir. Alors, je n'ai pas saisi si c'était pour le titre ou pas, je ne crois pas.
Si, c'était pour le titre.
Ouais. Okay, bon, grand poste, très bien, pas de problème. Donc, 2 out of 3 falls. La première fall arrive très très vite, hein, parce que petite distraction de Cesaro sur Titus, qui est du coup est distrait. Distraction réussie. Et Brock kick de Sheamus dans la foulée, 1-0. Et puis derrière, on va traînasser pendant 8-9 minutes sur un match, ma foi, que t'es pas dégueu, parce que je trouve que The Bar a plutôt bien fait le boulot. Et voilà, c'était un petit match sympatoche jusqu'à la deuxième fall qui arrive sur un move en équipe de Cesaro et Sheamus pour le 2-0. Cette fois, je pense que c'est bon. D'ailleurs, y a pas la peine de le penser puisqu'ils vont nous l'expliquer juste après le match. Hein, ils vont prendre le micro et ils vont nous dire, bon, écoutez, là, voilà, donc eux, c'est réglé. Mais en fait, le problème, c'est que c'est réglé pour tout le monde. Hein, on a battu tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein, parce qu'eux, on les a battus. Donc, ils énumèrent un petit peu tout leur succès.
Un peu la Ouzo.
Voilà, exactement, un peu comme à la Ousso. Du coup, quid pour Mania, il nous laisse un petit peu dans le suspens, dans la décision. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour The Bar. Moi je dis que ça sent le pré-chaud, mais écoute, on en reparlera dans les prochaines semaines.
Ouais, c'est une petite odeur de pré-chaud là.
Ça sent le pré-chaud quand même.
Ce qui sera frustrant parce que les mecs, ils ont juste illuminé. Ils sont actifs, mais
on a commencé à essayer de dessiner nos cartes un petit peu. On espère qu'on pourra peut-être partager ça avec nos auditeurs,
mais ils apparaissent pas souvent.
On continue. Bon, on a une petite vidéo qui fait chaud au cœur. Jarius Robertson, le petit JJ pour ceux qui connaissent là, qui du coup est nominé pour le Hall of Fame dans le cadre de la nomination du Warrior Award. Petit JJ, c'est le deuxième double J d'ailleurs cette année au Hall of Fame, hein, puisque nous avons Jeff Jarrett qui a été annoncé aussi. Nous aurons deux JJ cette année au Hall of Fame, Jarius Robertson. On continue avec Elias qui est au centre du ring avec sa guitare, évidemment, qui commence à nous faire la petite chanson, mais qui est interrompue par Braun Strowman qui va lui faire, qui va lui montrer ses mains. Donc Braun Strowman qui arrive en courant, ça, et donc ils avaient un match, hein, d'ailleurs, parce que c'est un vrai match entre les deux ce soir. Ça sort assez vite du ring, ça castagne, c'est un peu le boxon. Et au final, brawl, au bout d'une brawl assez peu inspirée, hein, j'ai trouvé, ouais, pour extraordinaire, Elias qui essaye de scarapater sous le ring, Braun qui l'attrape, qui le retire par les pieds, sauf que Elias avait réussi entre-temps à attraper un extincteur, donc le bon vieux coup de l'extincteur. Un gros spray dans la tête de Braun, qui lui gèle la barbe instantanément. Là. Et puis il remonte un peu dans le ring, il lui fout un coup d'extincteur dans les abdos.
Ce qui était une belle image, allégorie de... voilà, Braun Strowman était chaud bouillant pendant Mission Chamber.
On va le refroidir un peu.
On le refroidit un peu le lendemain.
Exactement. Le syndrome caractéristique du... Bon, bah, il y a un mec qui est en feu. Sauf que le problème, c'est que c'est un peu chiant parce que c'est pas lui qui... Il faut pas qu'il soit trop en feu parce qu'il y a d'autres personnes à faire passer. Donc du coup, on va le refroidir un petit coup. Un grand classique.
Ils sont tellement cons parce que c'est eux qui l'ont mis en feu, notamment parce qu'en plus c'est lui qui a clos le pay-per-view. Enfin, c'était idiot.
Oui, exactement. Donc bon, écoute, j'ai pas trop compris. Je suppose c'est du filler. Il va probablement y avoir une petite feuille de transition entre Elias et Braun Strowman, puisque Elias d'ailleurs a été chassé jusqu'au backstage. Hein, Braun Strowman qui lui a couru après. Il finira par s'enfuir dans le parking. Braun Strowman qui lui gueule un "I'm not finished with you" comme ça à côté d'une limousine noire qui arrive à ce moment-là aussi avec un petit focus caméra dessus. Mais alors ça n'a pas été exploité derrière. On ne sait pas qui était dans cette
limousine. Non, moi je m'attendais à ce que la fenêtre se baisse et la vitre arrière se baisse et qu'on voit Elias qui était caché.
Bah non, on venait de le voir courir. C'était pas possible. Non, je sais pas, je pensais que c'était peut-être Brock qui arrivait en retard, mais bon, je sais pas.
Ah, c'est peut-être la... Ouais.
Bon. Je ne sais pas, je sais pas ce que c'était. Voilà,
le fantôme de la limousine de Mr. Voilà. McMahon. Le
fantôme de la limousine, si nos éditeurs ont des théories, n'hésitent
ouais,
pas.
Ouais, dites-nous, qui appartient à cette limousine? Qui est à l'intérieur?
Voilà. Allez, on passe au main event. Yes. On passe au main event de la soirée. C'était Ronda Rousey. Alors, avant que Ronda Rousey soit là, donc nous avons Triple H et Stephanie McMahon qui sont là, qui sont pas contents, puisque Ronda s'est très mal comportée, hein. Elle pas été très gentille, puisqu'elle a quand même passé le COO de la compagnie à travers la table de signature du contrat et que ça se fait pas trop. Donc du coup, maintenant qu'elle est employée de la WWE, Stephanie McMahon réclame des excuses. Alors non, elle réclame pas des excuses. Elle réclame des excuses à Kurt Angle pour son numéro de pompier kamikaze là, un peu là, de kamikaze à l'Elimination Chamber hein, quand il avait balancé à Ronda Rousey que Triple H et Stephanie McMahon se jouaient d'elle avec ce contrat et patati patata. Donc voilà, ils expliquent que Ronda Rousey a fait appel à ses instincts bestiaux quand elle a de son entraînement UFC hein, quand elle a passé le CEO à travers la table. Donc du coup, elle a été obligée de baffer Ronda pour lui montrer qui était la boss. Et donc elle précise maintenant que elle own, donc elle possède hein, Ronda Rousey. Donc maintenant. C'est comme ça, elle va devoir suivre les règles du jeu. Et donc, elle veut une excuse de Kurt. Et donc, c'est à ce moment-là que la musique de Rousey retentit. Ronda Rousey, qui arrive avec son power walk. Là, ça marche très rapide, elle n'est pas contente. Donc là, cette fois, fini les sourires, les petits gnangnans et tout. Elle arrive, elle fronce les sourcils et elle fonce vers le ring. Là. Donc là, tu sens que ça va chier.
Fini de chouiner.
Fini de chouiner, oui, parce que ça c'était quand même assez incroyable.
la badass woman on the planet.
Kurt Angle qui la retient, hein, qui essaye de la calmer, qui lui court après. Fait, ah non, non, Ronda, fais attention. Écoute, la WWE, c'est la meilleure décision que tu aies pu prendre de ta vie de rejoindre la WWE. Ne gâche pas tout. Maintenant, tu vas devoir suivre les règles, t'as signé un contrat, nanana, et tout. Donc Ronda qui lui dit, je suis d'accord. Écoute, c'est vrai, la WWE, je veux tout faire pour percer la WWE, il faut que je fasse un. Mais j'ai jamais été baffé avant et je veux pas qu'on me manque de respect. Et puis d'abord, je n'appartiens à personne. Donc bon, ça, c'était quand même important de remettre un peu les points sur les i parce que ma marque Stephanie McMahon, coupe les couilles de tout le monde. Enfin, en tout cas, là, pour les filles, c'est...
Ouais, c'est le baptême, hein, tu te fais baptiser. Ouais,
c'est ça. Et donc, du coup, bah, elle dit, écoute, ok, tout est... Ah oui, alors, c'est pas fini, parce que Kurt lui explique, écoute, j'ai menti hier. Alors là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, donc, je sais pas, il a la Tourette ou un truc comme ça, là, Kurt Angle. En fait, il dit des trucs, mais il ne les pense pas, ça sort tout seul. Tu vois, genre,
la Tourette du booking, quoi.
Toi du booking, donc il dit non mais écoute, j'ai menti, c'est pas vrai ce que j'ai dit, je disais ça pour les énerver, mais voilà, j'ai des soucis de santé, machin, donc bon, je sais pas, apparemment il est fou. Donc du coup il s'excuse auprès de Triple H et Stéphanie, puis il calme Ronda, et puis donc bon, écoute, Ronda qui lui dit bah écoute, j'accepte, tu sens sur sa tête qu'elle comprend pas trop, mais
il
bon, écoute,
lui dit, j'accepte. Il lui dit quand même, j'ai besoin de ce job, et là la
oui,
foule rigole,
oui,
parce
c'est
que
très
c'est
drôle,
genre
ouais.
Tellement comique, I need this job.
Ouais, I need this job, genre Heath Slater est de
oui,
retour.
C'est ça.
Ouais. Donc du coup, Ronda qui explique, bon, ok, mais par contre, il y a une chose qui n'a pas été réglée encore, c'est la baffe. Donc là, tu sens quand même que ça lui tient à cœur, cette baffe. Hein. Et donc là, tout est ok, mais j'attends une excuse de Stéphanie, machin. Et alors là, Stéphanie lui sort la plus pourrie, bah, j'ai adoré. Voilà.
Ah ouais.
Ah non mais
ouais, qu'elle s'approche comme ça.
Ah c'était génial, l'excuse la plus alors half-assed là comme ils disent.
Ouais.
La plus.
Attention mais... hein, attention, je vais m'énerver.
Ouais
pardon,
non mais c'était
pardon,
tellement
pardon,
drôle, donc
désolé.
On n'y croit pas deux secondes, mais c'était magnifiquement déclamé, c'était en fait c'était magnifiquement mal joué, je trouvais que c'était superbe. Donc Stéphanie qui nous sort son grand numéro d'acteur studio, personne n'y croit. Bon écoute. Apparemment, Ronda Rousey ne bronche pas plus que ça. Et donc, il s'éclipse du ring tranquillement en disant, bon, voilà, je pense que maintenant tout est réglé. Donc, tu vois, Stéphanie qui sort du ring tranquillement. Kurt Angle, lui, est content, il regarde un peu en l'air. Et puis, Triple H, au moment de sortir du ring. Alors là, tout le monde pète un câble, de toute façon, en ce moment.
Oh,
au moment de sortir du ring, il nous cale une énorme patate dans la tronche de Kurt Angle, complètement gratos.
Mais oui, voilà, c'est ça.
Complètement gratos et nous, mais du coup, nous gratifie d'ailleurs pour la peine de probablement la photo de l'année que vous retrouverez en vignette de cet épisode.
Ouais.
Parce que Kurt Angle était complètement regardé le nez au vent comme ça et il se prend une prune en pleine tronche. C'est assez exceptionnel. Et donc, du coup, l'épisode se termine là-dessus.
Oh la vache!
Donc voilà, bah, écoute, qu'est-ce que tu as pensé de ce follow-up de l'Elimination Chamber?
C'était dans la même veine, quoi, du mauvais théâtre, mais bon, en même temps, quoi, avec ce Kurt Angle, mais, et, ce qui est fou, on se rappelle tous, hein, de sa promo, Hall of Fame, où il disait, le truc le plus important, c'est d'apprendre de pas se prendre au sérieux, quoi.
Ouais.
Voilà, que le wrestling, et je pense qu'il a raison, si t'as pas peur d'être drôle et de passer pour le plus crétin des crétins, t'iras loin. Bon ben voilà, on y est parce que là, franchement, voilà. Bah, alors moi je me demande, est-ce que d'après toi, quand il dit qu'il a menti, est-ce qu'il le dit parce qu'il a été menacé ou est-ce qu'il a vraiment menti?
Non, moi je pense que, enfin, écoute, je sais pas s'ils essayent de faire un Kurt Angle fou ou un truc comme ça. Moi je pense, enfin moi je l'ai plutôt compris dans ce dit, ouais bon, il a dû se faire menacer très clairement par Triple H et Stephanie, et donc du coup il backpédale là, il nous fait un truc, j'ai menti, pardon, s'il vous plaît, Ronda te fâche pas et puis vous me virez pas.
J'ai besoin de ce boulot.
Ouais, donc je pense que c'est un peu ça.
Ronda Rousey qui se dévoile dans la menace, hein, parce que autant au pay-per-view là, c'était la catastrophe, la plus badass de la planète. En fait, on parlait de meringue tout à l'heure, mais c'est une grosse meringue qui pleure sous le coup de l'émotion.
Ouais.
Autant
Madeleine.
Là, quand elle est vraiment sous la menace, quand elle prend sa tête de méchante là, là ça passe bien. Avec les chants repeat out, quoi, elle menace de disloquer bras de.
C'est un peu dans la même veine que les. Quand. Merde, c'était quand? Je crois que. Mais, d'ailleurs, c'était pas sur cette émission. Asuka Gonna Kill You, mais c'était pas. C'est quand je crois que. Alexa Bliss a commencé à la tracher Asuka, et puis du coup t'as le public qui est là, you fucked up, parce que du coup tu sens que genre t'as merdé parce que tu vas t'en prendre une.
Ouais, carrément.
C'est assez marré parce que du coup ça quand t'as des chants comme ça veut dire que oui voilà, là on est dans le bon tempo, là on est dans le bon timing parce que le personnage est badass, le personnage est menaçant, donc du coup le public comprend tout de suite ouais, là t'as merdé, tu vas, tu, genre, tu vas douiller.
Par contre,
c'est
elle
comme
a
ça qu'il faut
juste
la garder.
pas réagi du tout quand Kurt Angle, Triple H a mis le coup à Kurt Angle, quoi. Elle
Non,
était
alors oui,
plantée
alors
là,
après, oui,
elle
elle
l'a
s'est
regardé
baissée,
s'écrouler,
ouais.
et puis elle s'est dit, ah merde, c'est
Bah,
quoi
je pense qu'elle
déjà
était
les
sous le
gestes de
choc un
premier
peu.
secours? C'est quoi, merde?
Ouais.
Attends.
Ou merde, vite, position latérale
PLS. Attends, je te mets en PLS. Je suis sûr que Kurt Angle n'avait pas un gros plan, mais je suis sûr qu'il était allongé, mais il avait encore sa tête de grenier à
Ça
essayer
serait drôle.
d'illuminer.
Ouais, complètement. Genre, tu sais, son âme a quitté, a quitté le corps. Donc voilà.
C'était.
Bon, ça se finit là-dessus. Donc bon, voilà, on se dirige probablement vers ce qui se sentait, hein, ce Kurt Angle Ronda contre Triple H et Stéphanie.
Ouais.
Bon, on va voir comment il nous déroule ça jusqu'au bout, mais il faut garder Rousey badass, baddest woman on the planet, machin. Il faut qu'on ait peur d'elle. Donc faut continuer comme ça et plus faire ce qu'on a fait à Elimination Chamber, hein, c'est fini. La petite fille qui réalise son rêve, ça c'est pour Sasha Banks et Bayley. C'est pas pour Ronda Rousey.
Ouais.
Allez, on a fini. Bah écoute, c'est l'heure du top, du flop et bah, de ta note, IRM. Qu'est-ce que tu as pensé de ce premier Raw reviewé depuis une éternité? Est-ce que c'est
ouais.
mieux que SmackDown?
Bah c'est bien Raw, ils ont raison, nos amis de Cash of Raw. C'est bien,
ouais.
C'est bien. C'était le, comme on disait, le promo, le, voilà, le Raw de la promo.
Ouais.
Même s'il y a eu des bons matchs aussi, hein, il y a eu des bons affrontements. Donc moi j'ai passé un super moment, vraiment, toutes ces promos par des mecs qui maîtrisent, que ce soit Cena ou Miz, ou alors
on n'a pas envoyé n'importe qui, hein,
ouais. Ouais, ou alors
Alexa
Reigns
Bliss,
qui a besoin de Alexa Bliss, ouais, ça,
tous les meilleurs un peu
on nous met
dans
les meilleurs, non mais
l'exercice,
c'est
hein.
ça, c'est vraiment nous à Raw, effectivement, on a le problème, c'est ouais, SmackDown aussi on a des super gars, mais voilà, à Raw ils les mettent de, enfin on nous les ils les mettent en valeur, ils ont été mis, tous mis en valeur. Surtout avec des grosses promos dont on a besoin là sur cette route de WrestleMania. Il faut que les mecs. C'est le moment où tu dois attraper le micro et aller le chercher, justement, ton affiche. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Donc c'est difficile, hein, de trouver un top parmi toutes ces promos, parce qu'elle irait forcément vers une promo. Qui je vais la donner? Je vais la donner à John Cena. Allez, la promo de John Cena, que j'ai beaucoup aimé. Qui c'est une de celles qui m'a le plus touché, on va dire, parce que j'ai bien aimé cet aspect-là du personnage. Mon flop, ce serait quoi? Allez, Braun Strowman qui est vraiment là, le chaud et le froid, quoi.
Ouais, coup d'arrêt. Bah,
et
écoute,
ma note, pardon,
ah,
ma note
oui,
c'est un 4, un bon 4. Hein.
Ah, ça c'est beau ça. Bon, ouais. Bah, c'est très bien, c'est très similaire. Je vois qu'on est de retour au diapason. J'ai ma note, c'est un 4 aussi. J'ai beaucoup apprécié ce Raw. Ça fait plaisir, il se passe plein de trucs. On sent qu'on est dans la Road to WrestleMania. Là. Donc voilà, on a eu des belles promos. Ils ont réussi à nous caler du bon catch. Ils ont joué sur les forces de tout le monde. Hein. Voilà,
ouais.
Les bons mecs au micro ont parlé, les bons catcheurs ont catché. Et il s'est passé plein de trucs. Donc c'était top. Moi, je me suis pas emmerdé sur cette émission. Donc voilà, le flop, moi je l'avais mis à Braun Strowman aussi. Bon, alors pas à Braun Strowman en tant que tel, mais plus au coup d'extincteur qui s'est pris aussi bien littéralement que figurativement parlant, hein, le coup d'extincteur sur Braun Strowman là.
Je t'arrête juste parce que sur le chat il y a Baxence qui dit qui met en flop Kurt Angle et qui met pour son acting, son management, ses décisions,
décision,
et son Alzheimer.
Écoute, c'est vrai qu'il serait pu être un bon candidat. Et puis bah mon top, j'hésitais parce que je vois le top de Maxence justement qui met le Miz. C'est vrai que on pourrait le mettre à toute la deuxième heure d'Euro, porté à bout de bras du Miz. Mais je vais rester sur ce que je m'étais noté quand même. C'était la promo de Reigns qui pour moi était exceptionnelle et vraiment je trouvais que c'était sa meilleure promo depuis toujours. Donc bravo, mais le Miz mérite une mention. En effet, je suis bien d'accord. Donc voilà, ça y est, on a terminé. Ça fait tout drôle de revoir un show où ça se passe bien. C'est sympa.
Ouais.
Ça fait du bien. Donc,
à quand le shake-up dans les.
Ouais, vivement le shake-up. Hein.
Ouais.
Donc bah, vous pouvez nous retrouver comme d'hab. Alors les crédits, je les fais pas aussi bien que nos hôtes habituels, hein, mais vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Alors sur Twitter @catchup.
Alors je vais le faire sur Twitter @catchupcdc, Facebook @catchupcdc. Ah, oui. Vous pouvez nous suivre aussi évidemment pour recevoir tous les épisodes en audio sur iTunes ou PodCloud.
Ah, voilà.
Cherchez Catchup sur YouTube également en vidéo pour les lives. CatchUpCDC. Voilà, et puis je te laisse faire la suite quand même.
Ah bah écoute, voilà, donc c'est
demander aux gens
comme
de faire
quoi,
des commentaires.
Ouais, comme quoi ça s'improvise pas, c'est un métier quand même, hein, c'est sûr. Ah non, mais c'est la grande classe, hein. Non, mais oui, en effet, bah commentez, laissez-nous dans la mesure du possible, bah ouais, commentez à fond, on essaiera d'y répondre pendant les émissions ou d'essayer de faire des rappels. Mettez-nous des pouces bleus sur YouTube, des étoiles, des bonnes notes, des mauvaises notes si vous aimez pas, mais en tout cas, voilà, réagissez, c'est la meilleure récompense que vous pouvez nous faire. Et puis bah continuez d'être de plus en plus nombreux sur le chat, ça nous fait plaisir de lire vos réactions en live. Et puis bah voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à très vite, enfin même pas la semaine prochaine, hein, très rapidement pour se reprendre.
Allez, salut.
Allez, ciao ciao.
Le